Patricia Martin, je le disais tout à l'heure, c'est donc un rêveur que l'on reçoit à présent, Daniel Pennac, pour son dernier livre, La loi du rêveur, qui paraît aux éditions Gallimard.
Bonjour Daniel Pennac.
Bonjour.
La loi du rêveur, c'est un bien joli titre pour un roman qu'il est impossible de résumer.
Oui, il n'est pas pitchable, comme on dit aujourd'hui.
Enfin, il faut quand même qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit.
À débrouillez-vous.
Il y a toutes sortes, toutes sortes de. On peut toujours raconter le début. Un gosse d'une dizaine d'années subit un matin chez lui une inondation de lumière. Mais cette lumière est une lumière qui ne rayonne pas. Une lumière morte qui envahit sa chambre d'abord, la maison ensuite. Quand il veut sortir de sa maison, il constate que la ville entière est inondée par cette lumière sans rayon.
Lumière effrayante.
Alors, comment un phénomène pareil est-il possible? Et comment m'en suis-je sorti?
Parce que ça vous
c'est
raconte.
Ce que raconte voilà. Le bouquin.
Oui, alors c'est un peu votre vie mentale que vous donnez à voir, et on se souvient évidemment du journal d'un corps, où là c'était l'histoire de votre carcasse, si vous me permettez, de la naissance à la fin de la vie d'un homme. C'était un texte magnifique, d'ailleurs lu à voix haute à différentes reprises au théâtre. Est-ce que là, vous diriez que c'est un peu l'équivalent psychique?
Oui. Oui, c'est même finaux, hein, de votre part d'avoir trouvé cette relation entre les deux. C'est vrai que c'est un peu l'équivalent du journal d'un corps, à ceci près que il s'agit ici de rêves. Moi, il se trouve que je suis en effet
un rêveur,
que je tiens le journal.
Blague à part, vous tenez le journal de vos rêves?
Absolument.
C'est-à-dire
oui. Que
le matin au réveil?
Oui, si je rêve, je note immédiatement ce dont j'ai rêvé. Et dans ce livre-ci, l'idée m'est venue de tirer le fil. Je fais un rêve donné qui est en l'occurrence celui de cette inondation. Et en me réveillant, j'ai décidé de tirer le fil anecdotique. Voyons, jusqu'où peut aller cette histoire? Vous avez deux types de rêves, des rêves clos dont on ne peut rien tirer et des rêves ouverts, comme ça, qui sont presque romanesques en eux-mêmes. Et là, j'ai tiré le fil.
Bah oui, et pour en faire un roman, sans qu'il y ait vraiment, il n'y a pas une action formidable. Et c'est pas facile de faire un roman avec
ça.
Non,
il fallait faire un roman qui soit presque l'essence même du suspense. La nature du suspense ici, pour le lecteur, ça doit être, est-ce que je suis dans un rêve ou est-ce que je suis dans la réalité?
Ah bah ça, c'est vrai qu'au début, on est complètement baladé.
On passe sans cesse de l'un à l'autre.
Ah, il y a quelqu'un d'autre qui écrivait le journal de ses rêves, c'est Fellini, qui tient une grande place dans le livre.
Alors, oui, parce que ça, je suis un admirateur inconditionnel de Fellini, et quand il a... Et Fellini tenait le journal de ses rêves et il les peignait. Il les dessinait, les peignait.
Y compris sur les plateaux.
Oui, et il les racontait.
Il les annotait.
Ouais. Il les annotait.
Il avait une vie avec les yeux ouverts et une vie avec les yeux
voilà,
fermés.
Voilà, c'est ce qu'il disait. Il disait, très longtemps j'ai pensé qu'il y avait deux vies, une vie quand on avait les yeux ouverts et une vie les yeux fermés. Et chez lui, les deux correspondaient. Parce que dans le livre de mes rêves de Fellini, on voit vraiment la naissance des films. Et dans ces films, on retrouve évidemment dans quantité de ses films ces images oniriques.
Et quand il n'a plus tourné, ça veut dire qu'il ne rêvait plus ou c'est le contraire?
Oui,
c'est
vers la fin de sa vie, malheureusement, il n'a plus pu rêver. Et d'une certaine façon, il en est mort. Oui, c'était une des conséquences des traitements qu'on lui faisait subir. Parce que le rêve est une fonction vitale. Ça, il faut le savoir. Tout le monde rêve.
Il y a pourtant des gens qui vous disent...
Oui, des gens qui se souviennent ou ne se souviennent pas de leur rêve, c'est autre chose. Mais le rêve en lui-même est une fonction vitale. Cessez de rêver et vous mourrez. Vous cesserez de manger et puis ensuite vous mourrez. Donc, ce roman-là, le journal La loi du rêveur, c'est donc l'expérience que j'ai faite de tirer la ligne anecdotique d'un rêve jusque dans la vie réelle, à partir de laquelle quantité de choses se passent, qui sont les choses qui se passent dans ma vie diurne.
Vous êtes tout de même un peu gonflé, Daniel Pénac, si je peux me permettre. Parce que quand vous étiez prof, vous demandiez à vos élèves, et vous l'écrivez dans ce livre, au moment de rédiger une rédaction, de surtout ne pas aller chercher des rêves oniriques, mais d'être bien campé dans la réalité. Et là, vous nous faites le coup du rêve. Vos élèves vont vous contacter pour vous engueuler.
Oui, et c'était après leur avoir appris à noter leurs rêves.
Mais pourquoi est-ce que vous leur avez appris? Parce que ces mômes auxquels vous apprenez à noter leurs rêves ont des, on dirait, des difficultés avec la parole, avec les mots, avec le langage.
C'était des enfants qui étaient en cessation d'écriture. Ils refusaient absolument d'écrire. Et c'était à Nancy, ça, à l'Académie de Nancy. On m'avait appelé, on me dit voilà, on a des gosses qui ne veulent pas écrire, qui ne peuvent pas écrire, quoique sachant écrire. Donc j'y suis allé. On a commencé à faire beaucoup de choses orales. On a chanté des chansons, fait du théâtre, etc. Et à un moment donné, j'ai rêvé d'une séance où j'étais avec eux et je leur ai raconté. Du coup, ils se sont mis à me raconter eux-mêmes leurs rêves et je leur ai fait noter leurs rêves sans jamais prononcer le verbe écrire.
Et sans jamais les lire, d'ailleurs.
Sans jamais lire, l'indiscrétion de lire, parce qu'évidemment, ils avaient honte de leur écriture, ils avaient honte des fautes, etc. Ils ont donc écrit leurs rêves quotidiennement, me les ont lus, et c'est à partir de cet exercice que je les ai réconciliés, au fond, avec l'écriture.
C'est-à-dire que c'est vous qui avez écrit sous leur dictée leur propre rêve au tableau.
Parce qu'ils me disaient, mais attendez, moi je comprends pas, on me dit que vous n'écrivez pas. Alors, vous écrivez puisque vous me lisez vos rêves. Alors, ils disaient, oui, mais ça c'est pas écrit. Je dis, comment c'est pas écrit? Dicte-le-moi. J'écrivais au tableau leurs rêves. Et en fait, ils avaient simplement l'horreur d'une écriture qui était trop fautive. Ils voulaient pas la montrer comme des gueules cassées en 14 qui ne veulent plus montrer leur visage. Et à partir de cet exercice, je les ai réconciliés, au fond, avec leur écriture, oui.
Vous dédiez ce livre à Jean-Bertrand Pontalis, mais est-ce que vous le dédiez à la mémoire de l'éditeur qu'il était chez Gallimard, votre éditeur? Est-ce que vous le dédiez à l'écrivain philosophe ou est-ce que vous le dédiez au psychanalyste qui a connu Lacan et qui a même suivi quelques sessions, séances chez Lacan et qui avait après écrit Entre les rêves et
non, la je le dédie à l'ami.
À l'ami, oui, c'est
je
ça.
Je le dédie à l'ami. Nous étions très amis. Et sur cette affaire de rêve, on riait beaucoup ensemble parce que JB, évidemment.
JB Pontet.
Moi, je n'ai jamais confié un rêve à un psychanalyste. L'interprétation en soi ne m'intéressait pas de mes rêves. Mes rêves ne m'intéressaient qu'en tant qu'ils pouvaient être des producteurs de récits. Et lui, ça le faisait rigoler. Il me disait, tu es un saboteur d'analyse. C'est inadmissible d'utiliser ses rêves uniquement comme banque de récits. C'est tout à fait. Et alors, on se disputait beaucoup là-dessus. On était très amis. Et je le regrette encore, quoi.
Mais JB Pontalis.
Ce souvenir de ses rêves, Daniel Pénac, pour l'écrivain, et les raconter ensuite, donc en quelque sorte, c'est les utiliser, c'est les exploiter presque.
Et hontément. Oui.
Et hontément. Alors, il n'y a pas un moment où il se rebelle?
Mais non, à un moment donné, ils cessent d'être des rêves et deviennent la réalité. Dans le fil de ce livre, vous le verrez, il y a une espèce d'incarnation qui se fait. Ces rêves prennent corps, prennent chair.
Il n'y a pas que dans ce livre. Chez les Malocènes, par exemple, on rêve beaucoup.
Oui, chez les Malocènes a beaucoup bénéficié de mon aptitude à rêver, oui.
Il y a une page de ce livre qui m'a, à titre personnel, beaucoup émue. C'est le rêve d'une tribu. C'est une tribu qui s'entend, où les gens vont d'accord les uns avec les autres, et où votre fille, d'ailleurs, vous parle de votre instinct de berger. Vous avez un instinct de berger?
Mais c'est
oui, de chien moi, berger, j'ai, pas de berger, de chien
j'ai,
de berger.
J'ai d'une certaine façon toujours eu une vie tribale. J'étais pensionnaire pendant toute mon enfance. La vie est tribale. Ensuite, j'ai été prof, pensionnaire, avec les élèves, vie tribale. Et autour de moi, oui, c'est une... J'ai des tribus qui se sont rassemblées depuis toutes ces années que je vis.
Est-ce qu'il faut être un bon rêveur pour être un bon écrivain? Parce que quand vous parlez de Fellini, on se dit que peut-être vous aussi, vous avez peur un jour de ne plus rêver et donc d'avoir plus de difficultés à écrire.
Il n'y a probablement pas de rapport direct, mais il y a une volonté chez Fellini. Il y avait une volonté délibérée hein, de ne pas laisser perdre ses rêves. C'est une volonté absolue qui lui avait d'ailleurs été donnée par un psychanalyste qui s'appelait Bernhardt, comme le Thomas Bernhardt, qui disait mais notez vos rêves, prenez-les et dessinez-les. Et cette volonté, c'est une volonté vitale pour moi aussi. Je ne peux absolument pas me permettre de laisser passer mes rêves sans les saisir.
Ne pas laisser passer ses rêves, la loi du rêveur. Merci Daniel Pénac, et c'est publié chez Gallimard.
Merci beaucoup Daniel Pénac, et bonne journée.